Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Cinquième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Cinquième partie. Après son souper, la Bête vint comme à l'ordinaire, lui faire visite, et après les mêmes questions et les mêmes réponses, la conversation finit par un « Bonsoir, la Belle ». Les Guenons, dames d'Atour, déshabillèrent leur maîtresse, la mirent au lit, et eurent l'attention d'ouvrir la fenêtre de la volière pour que les oiseaux, par un chant moins éclatant que celui du jour, provoquassent le sommeil et, assoupissant les sens, lui donnassent le plaisir de revoir son aimable amant. Plusieurs jours se passèrent sans qu'elle s'ennuyât. Chaque moment était marqué par de nouveaux plaisirs. Les singes en trois ou quatre leçons eurent l'industrie de dresser chacun un perroquet qui, lui servant d'interprète, répondait à la Belle avec autant de promptitude et de justesse que les singes en avaient à leurs gestes. Enfin, la Belle ne trouvait de fâcheux que d'être obligée de soutenir tous les soirs la présence de la Bête, dont les visites étaient courtes. Et c'était sans doute par son moyen qu'elle avait tous les plaisirs imaginables. La douceur de ce monstre inspirait quelquefois à la Belle le dessein de lui demander quelque éclaircissement au sujet de celui qu'elle voyait en songe. Mais suffisamment informée qu'il était amoureux d'elle, et craignant par cette demande de lui causer de la jalousie, elle se tut par prudence et n'osa satisfaire sa curiosité. À plusieurs reprises, elle avait visité tous les appartements de ce palais enchanté, mais on revoit volontiers des choses rares, curieuses et riches. La Belle porta ses pas dans un grand salon qu'elle n'avait vu qu'une fois. Cette pièce était percée de quatre fenêtres de chaque côté. Deux étaient seulement ouvertes et n'y donnaient qu'un jour sombre. La Belle voulut lui donner plus de clarté. Mais au lieu du jour qu'elle croyait y faire entrer, elle ne trouva qu'une ouverture qui donnait sur un endroit fermé. Ce lieu, quoique spacieux, lui parut obscur, et ses yeux ne purent apercevoir qu'une lueur éloignée qui ne semblait venir à elle qu'au travers d'un crêpe extrêmement épais. En rêvant à quoi ce lieu pouvait être destiné, une vive clarté vint tout d'un coup l'éblouir. On leva la toile, et la Belle découvrit un théâtre des mieux illuminés. Sur les gradins et dans les loges, elle vit tout ce que l'on peut voir de mieux fait et de plus beau dans l'un et l'autre sexe. À l'instant, une douce symphonie qui commença de se faire entendre ne cessa que pour donner à d'autres acteurs, que des comédiens singes et perroquets, la liberté de représenter une très belle tragédie suivie d'une petite pièce qui, dans son genre, égalait la première. La Belle aimait les spectacles. C'était le seul plaisir qu'en quittant la ville, elle eût regretté. Curieuse de voir de quelle étoffe était le tapis de la loge voisine de la sienne, elle en fut empêchée par une glace qui les séparait, ce qui lui fit connaître que ce qu'elle avait cru réel n'était qu'un artifice qui, par le moyen de ce cristal, réfléchissait les objets et les lui renvoyait de dessus le théâtre de la plus belle ville du monde. C'est le chef-d'œuvre de l'optique de faire réverbérer de si loin. Après la comédie, elle demeura quelque temps dans sa loge pour voir sortir le beau monde. L'obscurité qui se répandit dans ce lieu l'obligea de porter ailleurs ses réflexions. Contente de cette découverte, dont elle se promettait de faire un usage fréquent, elle descendit dans les jardins. Les prodiges commençaient à lui devenir familiers. Elle sentait avec plaisir qu'il ne s'en faisait qu'à son avantage et pour lui procurer de l'agrément. Après souper, la bête, à son ordinaire, vint lui demander ce qu'elle avait fait dans la journée. La belle lui rendit un compte exact de tous ses amusements en lui disant qu'elle avait été à la comédie.
« Est-ce que vous l'aimez ?»
lui dit le lourd animal.
« Souhaitez tout ce qu'il vous plaira, vous l'aurez. Vous êtes bien jolie. »
La belle sourit intérieurement de cette façon grossière de lui faire des honnêtetés. Mais ce qui ne la fit point rire, ce fut la question ordinaire et le
« Vous voulez que je couche avec vous ?»
fit cesser la bonne humeur. Elle fut quitte pour répondre non. Cependant, sa docilité dans cette dernière entrevue ne la rassura point. La belle en fut alarmée. « Qu'est-ce que tout ceci deviendra ? » disait-elle en elle-même. « La demande qu'il me fait à chaque fois, si je veux coucher avec lui, me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le confirment. Mais quoiqu'il ne s'obstine pas dans ses demandes, et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus, qui me répondra qu'il ne s'impatientera pas, et que ma mort n'en sera point le prix ?» Ces réflexions la rendirent si rêveuse qu'il était presque jour quand elle se mit au lit. Son inconnu, qui n'attendait que ce moment pour paraître, lui fit de tendres reproches de son retardement. Il la trouva triste, rêveuse, et lui demanda ce qui pouvait lui déplaire en ce lieu. Elle lui répondit que rien ne lui déplaisait que le monstre. Elle le voyait tous les soirs. Elle s'y serait accoutumée, mais il était amoureux d'elle, et cet amour lui faisait appréhender quelque violence. « Par le sot compliment qu'il me fait, je juge qu'il voudra que je l'épouse. Me conseilleriez-vous, dit la belle à son inconnu, de le satisfaire ? Hélas, quand il serait aussi charmant qu'il est affreux, vous avez rendu l'entrée de mon cœur inaccessible pour lui comme pour tout autre, et je ne rougis point d'avouer que je ne puis aimer que vous. » Un aveu si charmant ne fit que le flatter. Il n'y répondit qu'en disant « Aime qui t'aime, ne te laisse point surprendre aux apparences, et tire-moi de prison. » Ce discours répété continuellement sans aucune autre explication mit la belle dans une peine infinie. « Comment voulez-vous que je fasse ? » lui dit-elle. « Je voudrais à quelque prix que ce fût vous rendre la liberté. Mais cette bonne volonté m'est inutile, tant que vous ne me fournirez pas les moyens de la mettre en pratique. » L'inconnu lui répondit, mais ce fut d'une façon si confuse qu'elle n'y comprenait rien. Il lui passait mille extravagances devant les yeux. Elle voyait le monstre sur un trône tout brillant de pierreries qui l'appelait et l'invitait de se mettre à ses côtés. Un moment après, l'inconnu l'en faisait précipitamment descendre et se mettait en sa place. La bête reprenant l'avantage, l'inconnu disparaissait à son tour. On lui parlait au travers d'un voile noir qui lui changeait la voix et la rendait effroyable. Tout le temps de son sommeil se passa de la sorte, et malgré l'agitation qu'il lui causait, elle trouva cependant qu'il finissait trop tôt pour elle, puisque son réveil la privait de l'objet de sa tendresse. Au sortir de sa toilette, différents ouvrages, les livres, les animaux, l'occupèrent jusque à l'heure de la comédie. Il était temps qu'elle s'y rendît. Mais elle n'était plus au même théâtre. C'était celui de l'opéra qui commença dès qu'elle fut placée. Le spectacle était magnifique, et les spectateurs ne l'étaient pas moins. Les glaces lui représentaient distinctement jusqu'au plus petit habillement du parterre. Ravie de voir des figures humaines, dont plusieurs étaient de sa connaissance, c'eût été pour elle un grand plaisir de leur parler et de s'en faire entendre. plus satisfaite de cette journée que de la précédente, le reste fut semblable à ce qui s'était passé depuis qu'elle était dans ce palais. La bête vint le soir. Après sa visite, elle se retira comme à l'ordinaire. La nuit fut pareille aux autres, je veux dire remplie de songes agréables. À son réveil, elle trouva le même nombre de domestiques pour la servir. Après son dîner, ses occupations furent différentes. Le jour précédent, en ouvrant une autre fenêtre, elle s'était trouvée à l'opéra. Pour diversifier ses amusements, elle en ouvrit une troisième qui lui procura les plaisirs de la foire Saint-Germain, bien plus brillante alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais comme ce n'était pas l'heure où la bonne compagnie se présentait, elle eut le temps de tout voir et de tout examiner. Elle y vit les curiosités les plus rares, les productions extraordinaires de la nature, les ouvrages de l'art, les plus petites bagatelles lui tombèrent sous les yeux. Les marionnettes même ne furent pas, en attendant mieux, un amusement indigne d'elle. L'opéra comique était dans sa splendeur. La belle en fut très contente. Au sortir de ce spectacle, elle vit toutes les personnes du bon air se promener dans les boutiques des marchands. Elle y reconnut des joueurs de profession qui se rendaient en ce lieu comme à leur atelier. Elle en remarqua qui, perdant leur argent par le savoir-faire de ceux contre lesquels ils jouaient, sortaient avec des contenances moins joyeuses que celles qu'ils avaient en y entrant. Les joueurs prudents, qui ne mettent point leur fortune au hasard du jeu et qui jouent pour faire profiter leur talent, ne purent cacher à la belle leur tour d'adresse. Elle eût voulu avertir les parties souffrantes du tort qu'on leur faisait, mais éloignée d'eux de plus de 1000 lieues, elle ne le pouvait pas. Elle l'entendait et remarquait tout très distinctement, sans qu'il lui fût possible de leur faire entendre sa voix, ni même d'en être aperçue. Les reflets qui portaient jusqu'à elle ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait n'étaient pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Elle était placée au-dessus de l'air et du vent. Tout arrivait jusqu'à elle en pensant. Elle y fit réflexion. C'est ce qui l'empêcha de faire des tentatives inutiles. Il était plus de 00h avant qu'elle eût pensé qu'il était temps de se retirer. Le besoin de manger eût pu l'instruire de l'heure, mais elle avait trouvé dans sa loge des liqueurs et des corbeilles remplies de tout ce qu'il fallait pour une collation. Son souper fut léger et court. Elle se pressa de se coucher. La bête s'aperçut de son impatience et vint simplement lui souhaiter le bonsoir pour lui laisser le temps de dormir et à l'inconnu la liberté de reparaître. Les jours suivants furent semblables. Elle avait en ses fenêtres des sources intarissables de nouveaux amusements. Les trois autres lui donnaient, l'une, le plaisir de la comédie italienne, l'autre, celui de la vue des Tuileries, où se rendent tout ce que l'Europe a de personnes plus distinguées et des mieux faites dans les deux sexes. La dernière fenêtre n'était pas la moins agréable. Elle lui fournissait un moyen sûr pour apprendre tout ce qui se faisait dans le monde. La scène était amusante et diversifiée de toutes sortes de façons. C'était quelquefois une fameuse ambassade qu'elle voyait, un mariage illustre ou quelques révolutions intéressantes. Elle était à cette fenêtre dans le temps de la dernière révolte des janissaires. Elle en fut témoin jusqu'à la fin. À quelque heure qu'elle y fût, elle était certaine d'y trouver une occupation agréable. L'ennui qu'elle avait ressenti les premiers jours en attendant la bête était entièrement dissipé. Ses yeux s'étaient accoutumés à la voir laide. Elle était faite à ses sottes questions, et si la conversation eût été plus longue, peut-être l'aurait-elle vue avec plus de plaisir. Mais 4 ou 5 phrases toujours les mêmes, dites grossièrement, qui ne fournissaient que des oui et des non, n'étaient pas de son goût. Comme tout semblait s'empresser à prévenir les désirs de la belle, elle prenait plus de soin de s'ajuster, quoiqu'elle fût certaine que personne ne l'a dû voir. Mais elle se devait cette complaisance à elle-même, et c'était pour elle un plaisir de se revêtir des divers ajustements de toutes les nations de la terre, d'autant plus aisément que sa garde-robe lui fournissait tout ce qu'elle pouvait désirer et lui présentait tous les jours quelque chose de nouveau. Sous ses diverses parures, son miroir l'avertissait qu'elle était au goût de toutes les nations, et ses animaux, chacun selon leur talent, le lui répétaient sans cesse, les singes par leurs gestes, les perroquets par leurs discours, et les oiseaux par leurs chants. Une vie si délicieuse devait combler ses vœux. Mais on se lasse de tout. Le plus grand bonheur devient fade quand il est continuel, qu'il roule toujours sur la même chose et qu'on se trouve exempt de crainte et d'espérance. La belle en fit l'épreuve. Le souvenir de sa famille vint la troubler au milieu de sa prospérité. Son bonheur ne pouvait être parfait tant qu'elle n'aurait pas la douceur d'en instruire ses parents. Comme elle était devenue plus familière avec la bête, soit par l'habitude de la voir, soit par la douceur qu'elle trouvait dans son caractère, elle crut pouvoir lui demander une chose. Elle ne prit cette liberté qu'après avoir obtenu d'elle qu'elle ne se mettrait point en colère. La question qu'elle lui fit fut s'ils étaient tous deux seuls dans ce château.
« Oui, je vous le proteste, »
répondit le monstre avec une sorte de vivacité.
« Et je vous assure que vous et moi, les singes et les autres bêtes, sont les seuls êtres respirants qui soient en ce lieu. »
La bête n'en dit pas davantage et sortit plus brusquement qu'à l'ordinaire. La belle n'avait fait cette demande que pour essayer à s'instruire si son amant n'était point dans ce palais. Elle eût souhaité de le voir et de l'entretenir. C'était un bonheur qu'elle eût acheté du prix de sa liberté et même de tous les agréments qui l'environnaient. Ce charmant jeune homme, n'existant plus que dans son imagination, elle regardait ce palais comme une prison qui deviendrait son tombeau. Ses tristes idées vinrent encore l'accabler la nuit. Elle crut être au bord d'un grand canal. Elle s'affligeait quand son cher inconnu, tout alarmé de son état triste, lui dit en pressant tendrement ses mains dans les siennes « Qu'avez-vous, ma chère belle, qui puisse vous déplaire et qui soit capable d'altérer votre tranquillité? Au nom de l'amour que j'ai pour vous, daignez vous expliquer. Rien ne vous sera refusé. Vous êtes ici l'unique souveraine. Tout est soumis à vos ordres. D'où vient l'ennui qui vous accable? Serait-ce la vue de la bête qui vous chagrine? Il faut vous en délivrer. » À ces mots, la belle crut voir l'inconnu tirer un poignard et se mettre en état d'égorger le monstre qui ne faisait aucun effort pour se défendre, qui même s'offrait à ses coups avec une soumission et une docilité qui fit appréhender à la belle dormeuse que l'inconnu n'exécuta son dessein avant qu'elle y pût mettre obstacle, quoiqu'elle se fût levée pour courir à son secours aussitôt qu'elle avait connu son intention. Pour avancer les effets de sa protection, elle s'écriait de toute sa force « Arrête, barbare! N'offense pas mon bienfaiteur ou me donne la mort !» Le jeune homme, qui s'obstinait à frapper la bête malgré les cris de la belle, lui dit en courroux « Vous ne m'aimez donc plus puisque vous prenez le parti de ce monstre qui s'oppose à mon bonheur ?»« Vous êtes un ingrat, » reprit-elle en le retenant toujours. « Je vous aime plus que la vie, et je la perdrai plutôt que de cesser de vous aimer. Vous me tenez lieu de tout, et je ne vous fais pas l'injustice de vous mettre en parallèle avec aucun de tous les biens du monde. » Sans peine j'y renoncerai pour vous suivre dans les déserts les plus sauvages. Mais ces tendres sentiments ne peuvent rien sur ma reconnaissance. Je dois tout à la bête. Elle prévient mes désirs. C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître. Et je me soumets à la mort plutôt que d'endurer que vous lui fassiez le moindre outrage. » Après de pareils combats, les objets disparurent. Et la belle crut voir la dame qu'elle avait déjà vue quelques nuits avant et qui lui disait « Courage, la belle, sois le modèle des femmes généreuses. Fais-toi connaître aussi sage que charmante. Ne balance point à sacrifier ton inclination à ton devoir. Tu prends le vrai chemin du bonheur. Tu seras heureuse, pourvu que tu ne t'en rapportes pas à des apparences trompeuses. » Fin de la cinquième partie. Lue par Ezois, en Belgique, en février 2010. Sixième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Sixième partie. Quand la belle fut éveillée, elle fit attention à ce songe, qui commençait à lui paraître mystérieux, mais il était encore une énigme pour elle. le désir de revoir son père l'emportait pendant le jour sur les inquiétudes que lui causaient en dormant le monstre et l'inconnu. Ainsi, ni tranquille la nuit, ni contente le jour, quoiqu'au milieu de la plus grande opulence, elle n'avait pour calmer ses ennuis que le plaisir des spectacles. Elle fut à la Comédie-Italienne, d'où, dès la première scène, elle sortit pour aller à l'opéra, mais elle en sortit encore avec la même promptitude. Son ennui la suivait partout. Souvent, elle ouvrait les 6 fenêtres plus de 6 fois chacune, sans y trouver un moment de tranquillité. Les nuits qu'elle passait étaient semblables au jour. Sans cesse dans l'agitation, la tristesse prenait violemment, et sur ses attraits, et sur sa santé. Elle avait un grand soin de cacher à la bête la douleur dont elle était accablée, et le monstre qui l'avait plusieurs fois surprise les yeux en pleurs, sur ce qu'elle lui disait qu'elle n'avait qu'un léger mal de tête, ne poussait pas plus loin sa curiosité. Mais un soir, ses sanglots l'ayant trahie, et ne pouvant plus dissimuler, elle dit à la bête, qui voulait savoir le sujet de son chagrin, qu'elle avait envie de revoir ses parents. À cette proposition, la bête tomba sans avoir la force de se soutenir, et poussant un soupir, ou plutôt faisant un hurlement capable de faire mourir de peur, elle répondit « Quoi, la belle? Vous voulez abandonner une malheureuse bête? Devais-je croire que vous auriez si peu de reconnaissance? Que vous manque-t-il pour être heureuse? Les attentions que j'ai pour vous ne devraient-elles pas me garantir de votre haine? Injuste que vous êtes, vous me préférez la maison de votre père et la jalousie de vos sœurs. Vous aimez mieux aller garder les troupeaux que de jouir ici des douceurs de la vie. Ce n'est point par tendresse pour vos parents, c'est par antipathie contre moi, si vous voulez vous éloigner. »
« Non, la bête, lui répondit la belle d'un air timide et flatteur. Je ne vous hais point, et je serais fâchée de perdre l'espérance de vous revoir. Mais je ne puis vaincre le désir que j'ai d'embrasser ma famille. Permettez-moi de m'absenter pendant 2 mois, et je vous promets de revenir avec joie passer le reste de ma vie auprès de vous, et de ne vous jamais demander d'autre permission. »
Pendant ce discours, la bête, couchée par terre et la tête étendue, ne faisait connaître qu'elle respirait encore que par ses douloureux soupirs. Elle répondit en ces termes à la belle.
« Je ne puis rien vous refuser, mais il m'en coûtera peut-être la vie. N'importe. Dans le cabinet le plus proche de votre chambre, vous trouverez 4 caisses. Emplissez-les de tout ce qu'il vous plaira, soit pour vous, soit pour vos parents. Si vous me manquez de parole, vous vous en repentirez, et vous serez fâché de la mort de votre pauvre bête quand il n'en sera plus temps. Revenez au bout de 2 mois. Vous me trouverez en vie. Pour votre retour, vous n'aurez point besoin d'équipage. Prenez seulement congé de votre famille le soir avant de vous retirer, et quand vous serez dans le lit, tournez votre bague la pierre en dedans, et dites d'un ton ferme « Je veux retourner en mon palais revoir ma bête. » Bonsoir. Ne vous inquiétez de rien. Dormez tranquillement. Vous verrez votre père de bonne heure. Adieu, la belle. »
Dès qu'elle se vit seule, elle se dépêcha d'emplir ses caisses de toutes les galanteries et les richesses imaginables. Elles ne se trouvèrent pleines que quand elle fut lasse d'y mettre. Après tous ces préparatifs, elle se mit au lit. L'espérance de revoir incessamment sa famille la tint éveillée tout le temps qu'elle eût dû dormir, et le sommeil ne la gagna qu'à l'heure qu'il fallut qu'elle se fût levée. Elle vit en dormant son aimable inconnu, mais ce n'était plus le même. Étendu sur un lit de gazon, il lui parut pénétré de la plus vive douleur. La belle, touchée de le voir en cet état, se flatta de le tirer de cette profonde mélancolie en lui demandant le sujet de son chagrin. Mais son amant, en la regardant d'un air plein de langueur, lui dit «
Pouvez-vous, inhumaine, me faire cette question? L'ignorez-vous puisque vous partez et que ce départ est l'arrêt de ma mort ?»«
Ne vous abandonnez pas à la douleur, cher inconnu. Mon absence, lui répondit-elle, sera courte. Je ne veux que désabuser ma famille du cruel destin qu'elle pense que j'ai subi. Je reviens aussitôt dans ce palais. Je ne vous quitterai plus. Et comment abandonnerai-je un séjour qui me plaît tant? De plus, j'ai donné ma parole à la bête de revenir. Je n'y puis manquer. Mais pourquoi faut-il que ce voyage nous sépare? Soyez mon conducteur. Je remettrai mon voyage à demain pour en avoir la permission de la bête. Je suis sûre qu'elle ne me refusera pas. Acceptez ma proposition. Nous ne nous quitterons point. Nous reviendrons ensemble. Ma famille sera ravie de vous voir, et je compte qu'elle aura pour vous tous les égards que vous méritez. »
Je ne puis me rendre à vos désirs, répondit l'amant, à moins que vous ne soyez résolu à ne jamais revenir ici. C'est le seul moyen qui m'en puisse faire sortir. Voyez ce que vous voulez faire. La puissance des habitants de ces lieux n'est pas assez grande pour vous forcer à revenir. Il ne peut rien vous arriver sinon de chagriner la bête.
Vous ne songez pas, reprit la belle avec vivacité, qu'elle m'a dit qu'elle mourrait si je manquais de parole.
Que vous importe, répliqua l'amant. Sera-ce un malheur si pour votre satisfaction il n'en coûte que la vie d'un monstre? Que sert-il au monde? Quelqu'un perdrait-il à la destruction d'un être qui ne paraît sur la terre que pour être en horreur à la nature entière?
Ah, sachez, s'écria la belle presque en colère, que je donnerais ma vie pour conserver la sienne, et que ce monstre, qui ne l'est que par la figure, a l'humeur si humaine qu'il ne doit pas être puni d'une difformité à laquelle il ne contribue point. Je ne puis payer ses bontés d'une si noire ingratitude. L'inconnu, l'interrompant, lui demanda ce qu'elle ferait si le monstre essayait à le tuer, et si l'un des deux devait faire périr l'autre, auquel elle accorderait du secours.
« Je vous aime uniquement, répondit-elle, mais quoique ma tendresse soit extrême, elle ne saurait affaiblir ma reconnaissance pour la bête, et si je me trouvais en cette funeste occasion, je préviendrais la douleur que les suites de ce combat me pourraient causer en me donnant la mort. Mais à quoi bon des suppositions si fâcheuses, quoiqu'elles soient chimériques? Leur idée me glace le sens. Changeons de propos. »
Elle en donna l'exemple en lui disant tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant. Elle n'était point retenue par la fière bienséance, et le sommeil lui laissant la liberté d'agir naturellement, elle lui découvrait des sentiments qu'elle aurait contraints en faisant un usage parfait de sa raison. Son sommeil fut long, et quand elle fut éveillée, elle craignait que la bête ne lui manquât de parole. Elle était dans cette incertitude quand elle entendit un bruit de voix humaine qu'elle reconnaissait. Ouvrant précipitamment son rideau, elle fut surprise lorsqu'elle se vit dans une chambre qu'elle ne connaissait pas et dont les meubles n'étaient pas si superbes que ceux du palais de la bête. Ce prodige la fit presser de se lever et d'ouvrir la porte de la chambre. Elle ne se reconnaissait nullement dans cet appartement. Ce qui l'étonna davantage, ce fut d'y trouver les quatre caisses qu'elle avait préparées la veille. Le transport de sa personne et de ses trésors était une preuve de la puissance et des bontés de la bête. Mais dans quel endroit était-elle? Elle l'ignorait, quand enfin, entendant la voix de son père, elle fut se jeter à son col. Sa présence étonna ses frères et ses sœurs. Ils la regardèrent comme arrivée d'un autre monde. Tous l'embrassèrent avec des démonstrations de joie les plus grandes, mais ses sœurs, au fond du cœur, ne la voyaient qu'avec peine. Leur jalousie n'était pas détruite. Après beaucoup de caresses de part et d'autre, le bonhomme la voulut voir en particulier pour savoir d'elle les circonstances d'un voyage aussi surprenant et pour l'instruire de l'état de sa fortune à laquelle elle avait si grande part. Il lui dit que le jour qu'il l'avait laissée au palais de la bête, il avait été rendu chez lui le même soir sans aucune fatigue, que pendant sa route, il s'était occupé des moyens de dérober ses mâles à la connaissance de ses enfants, souhaitant qu'elles puissent être portées dans un petit cabinet joignant à sa chambre dont lui seul avait la clé, qu'il avait regardé ce désir comme impossible. Mais qu'en mettant pied à terre, le cheval qui portait ses mâles ayant pris la fuite, il s'était tout d'un coup vu déchargé de l'embarras de cacher ses trésors.
« Je t'avoue, dit ce vieillard à sa fille, que ces richesses dont je me croyais privé ne me chagrinèrent point. Je ne les avais pas assez possédées pour les regretter si fort. Mais cette aventure me parut être un cruel pronostic de ta destinée. Je ne doutais pas que la bête perfide n'en agit de la même façon avec toi. Je craignais que ses bienfaits à ton égard ne fussent pas plus durables. Cette idée me causa de l'inquiétude. Pour la dissimuler, je feignis d'avoir besoin de repos. Ce n'était que pour m'abandonner sans contrainte à la douleur. Je pensais ta perte certaine. Mais mon affliction ne dura pas. À la vue de mes mâles que je croyais perdus, j'augure bien de ton bonheur. Je les trouve placés dans mon petit cabinet précisément où je les souhaitais. Les clés, que j'avais oubliées sur la table du salon, où nous avions passé la nuit, se trouvèrent aux serrures. Cette circonstance, qui me donnait une nouvelle marque de la bonté de la bête, toujours attentive, me combla de joie. Ce fut alors que, ne doutant plus que ton aventure n'eût une suite avantageuse,
je me reproche les injustes soupçons que j'avais pris contre la probité de ce généreux monstre, et que je lui demande 100 fois pardon des injures qu'intérieurement ma douleur m'avait forcé de lui dire. Sans instruire mes enfants de l'étendue de ma fortune, je me suis contenté de leur donner ce que tu leur envoyais, et de leur faire voir des bijoux pour une somme très médiocre. J'ai faim depuis de les avoir vendus, et d'en avoir employé l'argent à nous procurer une vie plus commode. J'ai acheté cette maison, j'ai des esclaves qui nous dispensent des travaux auxquels la nécessité nous assujettissait. Mes enfants jouissent d'une vie aisée, c'est tout ce que je désirais. L'ostentation et le faste m'ont autrefois attiré des envieux, je m'en attirerais encore si je faisais la figure d'un riche millionnaire. Plusieurs parties, la belle, se présentent pour tes sœurs, je les vas incessamment marier, et ton heureuse arrivée m'y porte. Leur ayant donné la part que tu jugeras à propos que je leur fasse des biens que tu m'as procurés, débarrassés du soin de leur établissement, nous vivrons, ma fille, avec tes frères que tes présents n'ont point été capables de consoler de ta perte, ou, si tu l'aimes mieux, nous vivrons tous deux ensemble. » La belle, touchée des bontés de son père et des témoignages qu'il lui rendait de l'amitié de ses frères, le remercia tendrement de toutes ses offres et crut devoir ne lui point cacher qu'elle n'était pas venue pour rester chez lui. Le bonhomme, chagrin de n'avoir point sa fille pour appui dans sa vieillesse, n'essaya cependant pas de la détourner d'un devoir qu'il reconnaissait pour être indispensable. La belle, à son tour, lui fit le récit de ce qu'il pouvait être arrivé depuis son absence. Elle l'entretint de la vie heureuse qu'elle menait. Le bonhomme, ravi du détail charmant des aventures de sa fille, combla la bête de bénédictions. Sa joie fut bien plus grande quand la belle, en ouvrant ses caisses, lui fit voir des richesses immenses et qu'il eut la liberté de disposer de celles qu'il avait apportées en faveur de ses enfants, ayant assez de ces dernières marques de la générosité de la bête pour vivre agréablement avec ses fils. Trouvant dans ce monstre une âme trop belle pour être logée dans un si vilain corps, malgré sa laideur, il crut devoir conseiller à sa fille de l'épouser. Il employa même les raisons les plus fortes pour lui faire prendre ce parti. « Tu ne dois pas, lui dit-il, t'en rapporter aux yeux. On t'exhorte sans cesse à te laisser guider par la reconnaissance. En suivant les mouvements qu'elle t'inspire, on t'assure que tu seras heureuse. Il est vrai que tu ne reçois ces avertissements qu'en songe, mais ces rêves sont trop suivis et trop fréquents pour ne les attribuer qu'au hasard. Ils te promettent des avantages considérables. C'est assez pour vaincre ta répugnance. Ainsi, lorsque la bête te demandera si tu veux qu'elle couche avec toi, je te conseille de ne la pas refuser. Tu m'avoues en être tendrement aimée. Prends les mesures convenables pour que ton union soit éternelle. Il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite. Combien de filles à qui l'on fait épouser des bêtes riches, mais plus bêtes que la bête, qui ne l'est que par la figure et non par les sentiments et par les actions. » La belle convint de toutes ces raisons. Mais se résoudre à prendre pour époux un monstre horrible par sa figure et dont l'esprit était aussi matériel que le corps, la chose ne lui paraissait pas possible. « Comment, répondit-elle à son père, me déterminer à choisir un mari avec lequel je ne pourrai m'entretenir et dont la figure ne sera pas réparée par une conversation amusante? Nuls objets pour me distraire et me dissiper de ce fâcheux commerce? N'avoir pas la douceur d'en être quelquefois éloignée? Borner tout mon plaisir à 5 ou 6 questions qui regarderont mon appétit et ma santé, voir finir cet entretien bizarre par un « bonsoir la belle », refrain que mes perroquets savent par cœur et qu'ils répètent 100 fois le jour. Il n'est pas en mon pouvoir de faire un pareil établissement, et j'aime mieux mourir tout d'un coup que de mourir tous les jours de peur, de chagrin, de dégoût et d'ennui. Rien ne parle en sa faveur, sinon l'attention que cette bête a de me faire une courte visite et de ne se présenter devant moi que toutes les 24 heures. Est-ce assez pour inspirer de l'amour ? » Le père convenait que sa fille avait raison, mais voyant dans la bête tant de complaisance, il ne la croyait pas si stupide. L'ordre, l'abondance, le bon goût qui régnait dans son palais n'étaient pas, selon lui, l'ouvrage d'un imbécile. Enfin, il la trouvait digne des attentions de sa fille, et la belle se fut sentie du goût pour ce monstre, mais son amant nocturne y venait mettre obstacle. Le parallèle qu'elle faisait de ces deux amants ne pouvait être avantageux à la bête. Le vieillard n'ignorait pas lui-même la grande différence qu'on devait mettre entre l'un et l'autre. Cependant, il tâcha par toutes sortes de moyens de vaincre encore sa répugnance. il la fit souvenir des conseils de la dame qu'il avait averti de ne se pas laisser prévenir par le coup d'œil, et qui, dans ses discours, avait paru lui faire entendre que ce jeune homme ne pouvait que la rendre malheureuse. Il est plus difficile de raisonner sur l'amour que de le vaincre. La belle n'eut pas la force de se rendre aux instances réitérées de son père. Il la quitta sans avoir pu la persuader. La nuit déjà beaucoup avancée, l'invitait à prendre du repos, et cette fille, quoique charmée de le revoir, ne fut pas fâchée qu'il lui laissât la liberté de se coucher. Elle fut ravie de se trouver seule. Ses yeux appesantis lui faisaient espérer qu'elle allait, en dormant, bientôt revoir son amant chéri. Elle était dans l'impatience de goûter ce doux plaisir. Un tendre empressement marquait la joie que son cœur attendri pouvait ressentir d'un si beau commerce. Mais son imagination frappée, en lui représentant les lieux où d'ordinaire elle avait des entretiens charmants avec ce cher inconnu, ne fut point assez puissante pour le lui faire voir comme elle l'avait désiré. Fin de la 6e partie, lue par Ezoy, en Belgique, en mars 2010. Septième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Septième partie. Plusieurs fois elle se réveilla. Plusieurs fois elle se rendormit. Et les amours ne voltigèrent point autour de son lit. Pour tout dire, au lieu d'une nuit pleine de douceur et d'innocents plaisirs, qu'elle avait compté de passer dans les bras du sommeil, cette nuit fut pour elle d'une longueur extrême et remplie d'inquiétude. Dans le palais de la bête, elle n'en avait point eu de pareil, et le jour qu'elle vit paraître, avec une sorte de satisfaction et d'impatience, vint à propos la décharger de ses cruels ennuis. Son père, enrichi des libéralités de la bête, pour être à portée de procurer des établissements à ses filles, avait quitté le séjour de la campagne. Il demeurait dans une très grande ville où sa nouvelle fortune venait de lui procurer de nouveaux amis, ou plutôt de nouvelles connaissances. Parmi les personnes qu'il voyait, bientôt le bruit se répandit que la plus jeune de ses filles était de retour. Tout le monde marqua un égal empressement pour la voir, et chacun fut aussi charmé de son esprit que de sa personne. Les jours tranquilles qu'elle avait passés dans son palais désert, les innocents plaisirs qu'un doux sommeil lui prodiguait sans cesse, mille amusements qui s'étaient succédés pour que l'ennui n'entrât pas dans son cœur, enfin, toutes les attentions du monstre avaient contribué à la rendre encore plus belle et plus charmante qu'elle ne l'était quand son père la quitta. Elle fit l'admiration de ceux qui la virent. Les amants de ses sœurs, sans daigner colorer leur infidélité du moindre prétexte, en devinrent amoureux, et attirés par la force de ses charmes, ils ne rougirent point d'abandonner leur première maîtresse. Insensible aux attentions trop marquées d'une foule d'adorateurs, elle ne négligea rien pour les dégoûter et pour les faire retourner à leurs premiers objets, et malgré tous ses soins, elle ne fut pas à l'abri de la jalousie de ses sœurs. Ses amants volages, loin de dissimuler leur flamme nouvelle, tous les jours inventaient quelque fête pour lui faire leur cour. Ils la supplièrent même de donner un prix qui pût animer les jeux qu'ils voulaient faire en son honneur. Mais la belle, qui ne pouvait ignorer le chagrin qu'elle causait à ses sœurs, et qui ne voulait pas entièrement refuser la grâce qu'on lui demandait avec tant d'insistance et d'une façon si galante, trouva le moyen de les contenter tous, en déclarant que ses sœurs et elle donneraient successivement les prix dus aux vainqueurs. Ce qu'elle promettait n'était qu'une fleur ou quelque chose de semblable. Elle laissait à ses aînés la gloire de donner à leur tour des bijoux, des couronnes de diamants, de riches armes et des bracelets superbes, présents que sa main libérale leur fournissait et dont elle ne voulait pas se faire honneur. Les trésors que le monstre lui avait prodigués ne lui laissaient manquer de rien. Elle faisait part à ses sœurs de tout ce qu'elle avait apporté de plus rare et de plus galant. Ne donnant rien par elle-même que des bagatelles, et leur laissant le plaisir de beaucoup donner, elle comptait engager cette jeunesse à l'amour autant qu'à la reconnaissance. Mais ses amants en voulaient à son cœur, et ce qu'elle leur donnait leur était plus précieux que tous les trésors que lui prodiguaient les autres. Les plaisirs qu'elle goûtait au milieu de sa famille, quoique beaucoup inférieurs à ceux dont elle jouissait chez la bête, l'amusèrent assez pour ne pas s'ennuyer. Cependant,
la satisfaction de voir son père qu'elle aimait tendrement, l'agrément d'être avec ses frères, qui par 100 façons différentes s'étudiaient à lui marquer toute l'étendue de leur amitié, et la joie de s'entretenir avec ses sœurs, qu'elle aimait, quoiqu'elle n'en fût pas aimée, ne purent l'empêcher de regretter ses agréables rêves. Son inconnu, quel chagrin pour elle, dans la maison de son père, ne venait plus au milieu de son sommeil lui tenir les plus tendres discours. L'empressement que lui marquaient les amants de ses sœurs ne la dédommageait point de ce plaisir imaginaire. Quand elle eût été même de caractère à se flatter de pareilles conquêtes, elle savait mettre une grande différence entre leurs attentions à celles de la bête et de son aimable inconnu. Leurs assiduités ne furent payées que de la plus grande indifférence. Mais la belle, les voyant malgré ses froideurs opiniâtres, attachés à vouloir tous à l'envie lui prouver un amour le plus passionné, crut devoir leur faire connaître qu'ils perdaient leur temps. Le premier qu'elle essaya de détromper fut l'amant de son aîné, à qui elle apprit qu'elle n'était venue dans sa famille que pour assister au mariage de ses sœurs, surtout à celui de son aîné, et qu'elle allait prier son père d'en hâter l'exécution. La belle ne trouva pas un homme épris des appas de sa sœur. Il ne soupirait plus que pour elle, et froideur, dédain, menace de repartir avant les 2 mois expirés, rien ne fut capable de le dégoûter. Fort affligée de n'avoir pas réussi dans son projet, elle tint le même discours aux autres, qu'elle eut le chagrin de trouver dans de pareils sentiments. Pour comble de tristesse, ses injustes sœurs, qui la regardaient comme une rivale, conçurent contre elle une aversion qu'elles ne purent dissimuler. Et pendant que la belle déplorait le trop grand effet de ses charmes, elle eut encore la douleur d'apprendre que ses nouveaux soupirants, dans l'idée qu'ils se nuisaient et qu'ils étaient cause l'un pour l'autre qu'aucun ne fût favorisé, voulurent par la plus grande extravagance se battre. Tous ces désagréments lui firent former le dessein de partir plus tôt qu'elle ne l'avait résolu. Son père et ses frères ne négligèrent rien pour la retenir, mais esclave de sa parole, ferme dans sa résolution, les larmes de l'un et les prières de l'autre ne purent la gagner. Tout ce qu'ils obtinrent, c'est qu'elle différa son départ autant qu'elle put. Les 2 mois étaient écoulés, et tous les matins, elle formait la résolution de dire adieu à sa famille sans avoir la force de prendre congé d'elle le soir. Combattue par des sentiments de tendresse et de reconnaissance, elle ne pouvait pencher vers l'une qu'elle ne fît injustice à l'autre. Au milieu de ses embarras, il ne fallut pas moins qu'un rêve pour la déterminer. Elle crut être en dormant au palais de la bête, et se trouvant dans une allée écartée, au bout de laquelle était un fort rempli de broussailles qui cachait l'ouverture d'une caverne, d'où sortaient des gémissements effroyables, elle reconnut la voix de la bête. Elle y courut pour la secourir. Ce monstre qui lui parut dans son rêve étendu par terre et mourant, lui reprocha que c'était elle qui l'avait mise en ce triste état, et qu'elle n'avait payé son amour que de la plus noire ingratitude. Elle vit ensuite la dame qu'elle avait déjà vue en dormant, et qui lui dit d'un air sévère qu'elle était perdue pour peu qu'elle tardât encore à remplir ses engagements, qu'elle avait donné sa parole à la bête de revenir dans 2 mois, qu'ils étaient expirés, que tardant 1 jour de plus, cette bête allait mourir, que le désordre qu'elle causait dans la maison de son père, la haine de ses sœurs, devait l'engager à partir, d'autant plus volontiers que dans le palais de la bête, tout se réunissait pour lui faire plaisir. La belle, effrayée de ce rêve et craignant d'être la cause de la mort de la bête, se réveilla tout d'un coup et fut sans tarder déclarer à toute sa famille qu'elle ne voulait plus différer son départ. Cette nouvelle causa différents mouvements. Le père laissa parler ses larmes, les fils protestèrent qu'ils ne la laisseraient pas partir, et les amants au désespoir jurèrent de ne point désemparer sa maison. Les filles seules, loin de paraître affligées du départ de leur sœur, ne firent que louer sa bonne foi, se parant même de cette vertu, elles osèrent assurer que si, comme la belle, elles eussent donné leur parole, la figure de la bête ne les ferait pas balancer sur un si juste devoir, et qu'elles seraient déjà de retour à ce palais merveilleux. C'est ainsi qu'elles voulaient déguiser la cruelle jalousie qu'elles avaient dans le cœur. Cependant, la belle, charmée de leurs sentiments apparents de générosité, ne pensa plus qu'à convaincre ses frères et ses amants de l'obligation dans laquelle elle était de s'éloigner d'eux. Mais ses frères l'aimaient trop pour pouvoir consentir à son départ, et les amants trop épris ne pouvaient entendre raison. les uns et les autres ignorant par quelle voie la belle était arrivée chez son père, et ne doutant pas que le cheval qui la première fois l'avait portée au palais de la bête ne vînt la chercher, résolurent tous ensemble d'y mettre obstacle. Les sœurs, qui n'avaient que les apparences d'une prétendue bonne foi, pour cacher la joie qu'elles ressentaient en elles-mêmes, en voyant le moment du départ de leur sœur approcher, craignaient plus que la mort qu'ils n'en retardassent l'exécution. Mais la belle, ferme dans sa résolution, sachant tout le devoir l'appelait, et n'ayant plus de temps à perdre pour prolonger les jours de la bête sa bienfaitrice, prit, dès que la nuit fut venue, congé de toute sa famille et de ceux qui s'intéressaient à sa destinée. Elle les assura que quelque attention qu'ils eussent pour empêcher son départ, elle serait chez la bête le lendemain matin avant qu'ils fussent éveillés, que toutes leurs mesures seraient inutiles et qu'elle voulait retourner dans le palais enchanté. Elle n'oublia pas en se mettant au lit de tourner sa bague. Son sommeil fut long, et elle ne se réveilla que lorsque sa pendule sonnant 12 heures lui fit entendre son nom en musique. À ce signe, elle connut que ses souhaits étaient accomplis. Quand elle eut marqué qu'elle ne voulait pas dormir, son lit fut environné de ses bêtes qui s'étaient empressées à la servir. Toutes lui témoignèrent la satisfaction qu'elles avaient de son retour et lui firent connaître la douleur que leur avait causée sa longue absence. Cette journée lui parut plus longue que toutes celles qu'elle avait passées dans ce lieu. Non qu'elle regrettât la compagnie qu'elle avait laissée, mais elle était dans l'impatience de revoir la bête et de ne rien épargner pour sa justification. Une autre espérance l'animait encore, c'était d'avoir dans son sommeil les 12 entretiens de l'inconnu, plaisir dont elle avait été privée pendant les 2 mois qu'elle venait de passer avec sa famille et qu'elle ne pouvait goûter que dans l'enceinte de ce palais. La bête, enfin, et l'inconnu furent tour à tour le sujet de ses rêveries. Dans un moment, elle se reprochait de n'avoir pas du retour pour un amant qui, sous une figure monstrueuse, faisait paraître une si belle âme. Dans un autre, elle était triste d'abandonner son cœur à quelque image fantastique qui n'avait d'existence que celle que lui prêtaient ses songes. Elle doutait si son cœur devait préférer une chimère à l'amour réel d'une bête. Le songe qui lui faisait voir le bel inconnu l'avertissait sans cesse de ne point s'en rapporter à ses yeux. Elle craignait que ce ne fût une illusion vaine, que la vapeur du sommeil enfante et que le réveil détruit. Ainsi toujours irrésolue, aimant l'inconnu, ne voulant point déplaire à la bête, et ne cherchant qu'à s'occuper de ses plaisirs, elle fut à la Comédie-Française, qu'elle trouva d'une fadeur sans égale. Refermant brusquement la fenêtre, elle crut se dédommager à l'opéra. La musique lui parut pitoyable. Les Italiens n'eurent pas aussi le talent de l'amuser. Elle trouva leurs pièces sans sel, sans esprit et sans conduite. L'ennui, le dégoût qui la suivait, ne lui firent nullement trouver de plaisir. Elle n'eut dans les jardins nuls agréments. Sa cour cherchant à lui plaire, les uns perdirent le fruit de leurs gambades, les autres celui de leurs jolis discours et de leurs gazouillements. Elle était impatiente de recevoir la visite de la bête dont elle croyait entendre le bruit à chaque instant. Mais cette heure si désirée arriva sans que la bête parût. Alarmée et comme en colère de ce retardement, elle ne savait d'où provenait son absence. Flottant entre la crainte et l'espérance, l'esprit agité, le cœur en proie à la tristesse, elle descendit dans les jardins, résolue de ne point rentrer dans le palais qu'elle eût trouvé la bête. Dans tous les endroits qu'elle parcourut, elle ne vit aucune de ses traces. Elle l'appela, l'écho seul répéta ses cris. Ayant passé plus de 3 heures dans ce désagréable exercice et accablée de lassitude, elle s'assit sur un banc. Elle s'imaginait ou que la bête était morte, ou qu'elle avait abandonné ses lieux. Elle se trouvait seule dans ce palais, sans espoir d'en sortir. Elle regrettait l'entretien de la bête, quoiqu'il ne fût pas divertissant pour elle, et ce qui lui paraissait extraordinaire, c'était de se trouver tant de sensibilité pour ce monstre. Elle se reprochait de ne l'avoir pas épousé, se regardant comme l'auteur de sa mort, elle craignait que son absence trop longue ne l'eût causé. Elle se fit les plus durs et les plus sanglants reproches. Au milieu de ces tristes réflexions, elle aperçut qu'elle était dans cette allée même où la dernière nuit qu'elle venait de passer chez son père, elle s'était représenté le monstre mourant dans une caverne inconnue. Persuadée qu'elle n'avait pas été conduite dans ce lieu par le pur hasard, elle porta ses pas vers le fort qu'elle ne trouva pas impraticable.
elle y vit un entre-creux qui lui paraissait être le même qu'elle avait cru voir en songe. Comme la lune n'y fournissait qu'une faible lumière, les pages singes parurent incontinent avec un nombre de flambeaux suffisant pour éclairer cet antre et lui faire apercevoir la bête étendue par terre qu'elle crut endormie. Loin d'être effrayée de sa vue, la belle en fut fort contente, et s'en approchant hardiment, elle lui passa la main sur la tête en l'appelant plusieurs fois. Mais la sentant froide et sans mouvement, elle ne douta plus de sa mort, ce qui lui fit pousser des cris douloureux et dire les choses du monde les plus touchantes. La certitude de sa mort ne l'empêcha cependant pas de faire ses efforts pour la rappeler à la vie. En lui mettant la main sur le cœur, elle sentit avec une joie inexprimable qu'elle respirait encore. Sans s'amuser à la flatter davantage, la belle sortit de la caverne et courut à un bassin où, puisant de l'eau dans ses mains, elle lui en vint jeter. Mais comme elle n'en pouvait prendre que fort peu à la fois, et qu'elle la répandait avant que d'être auprès de la bête, son secours aurait été tardif sans le secours des courtisans singes qui coururent au palais et revinrent avec tant de diligence qu'elle eut dans un moment un vase pour puiser de l'eau et des liqueurs fortifiantes. Elle lui en fit respirer et avaler, ce qui, produisant un effet admirable, lui donna quelques mouvements et peu après lui rendit la connaissance. Elle l'anima de la voix et la flatta tant qu'elle se remit. « Que vous m'avez causé d'inquiétude, » dit-elle obligeamment à la bête. « J'ignorais à quel point je vous aimais. La peur de vous perdre m'a fait connaître que j'étais attachée à vous par des liens plus forts que ceux de la reconnaissance. Je vous jure que je ne pensais qu'à mourir si je n'avais pu vous sauver la vie. » À ces tendres paroles, la bête, se sentant entièrement soulagée, lui répondit d'une voix cependant encore faible. « Vous êtes bonne, la belle, d'aimer un monstre si laid. Mais vous faites bien. Je vous aime plus que ma vie. Je pensais que vous ne reviendriez plus. J'en serais morte. Puisque vous m'aimez, je veux vivre. Allez vous reposer, et soyez certaine que vous serez aussi heureuse que votre bon cœur le mérite. » Fin de la 7e partie, lue par Ezoie, en Belgique, en mars 2010. Huitième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Huitième partie. La Belle n'avait point encore entendu prononcer un si long discours à la Bête. Il n'était pas éloquent, mais il lui plut par le tour de douceur et de sincérité qu'elle y crut remarquer. Elle s'était attendue d'en être grondée, ou de recevoir du moins des reproches. Elle eut dès lors meilleure opinion de son caractère. Ne la trouvant plus si stupide, elle regarda même comme un trait de prudence ses courtes réponses, et, prévenue de plus en plus en sa faveur, elle se retira dans son appartement, l'esprit rempli des plus flatteuses idées. La belle, extrêmement fatiguée, y trouva tous les rafraîchissements dont elle avait besoin. Ses yeux appesantis lui promettaient un doux sommeil. Presque aussitôt endormie que couchée, son cher inconnu ne manqua pas de se présenter. Pour exprimer le plaisir qu'il avait de la revoir, que de choses tendres, il lui dit. Il l'assura qu'elle serait heureuse, qu'il ne s'agissait plus que de suivre les mouvements que lui dictait la bonté de son cœur. La belle lui demanda si ce serait en épousant la bête. L'inconnu lui répondit qu'il n'y avait que ce seul moyen. Elle en eut une espèce de dépit. Elle trouva même extraordinaire que son amant lui conseillât de rendre son rival heureux. Après ce premier songe, elle croyait voir la bête morte à ses pieds. Un instant après, l'inconnu paraissait et disparaissait en même temps pour laisser prendre sa place à la bête. Ce qu'elle remarquait le plus distinctement était la dame qui semblait lui dire « Je suis contente de toi, suis toujours les mouvements de ta raison et ne t'inquiète de rien, je me charge du soin de te rendre heureuse. » La belle, quoique endormie, paraissait découvrir son inclination pour l'inconnu et sa répugnance pour le monstre qu'elle ne trouvait pas aimable. La dame souriait de son scrupule et l'avertissait de ne point s'inquiéter de sa tendresse pour l'inconnu, que les mouvements qu'elle se sentait n'avaient rien d'incompatible avec l'intention qu'elle avait de faire son devoir, que sans résistance elle la pouvait faire suivre et que son bonheur serait parfait en épousant la bête. Ce songe, qui finit avec son sommeil,
fut pour elle une source intarissable de réflexions. Dans ce dernier et dans les autres, elle trouva plus de fondement que n'en ont communément les songes. C'est ce qui la détermina de consentir à cette étrange hymen. Mais l'image de l'inconnu venait sans cesse la troubler. C'était le seul obstacle, il n'était pas médiocre. Toujours incertaine de ce qu'elle avait à faire, elle fut à l'opéra sans que ses embarras cessassent. Au sortir de ce spectacle, elle se mit à table. L'arrivée de la bête fut seule capable de la déterminer. Loin de lui faire des reproches sur sa longue absence, le monstre, comme si le plaisir de la voir lui eût fait oublier ses ennuis passés, parut, en entrant chez la belle, n'avoir d'empressement que celui de savoir si elle s'était bien divertie, si on l'avait bien reçue et si sa santé avait été bonne. Elle répondit à ses questions et ajouta poliment qu'elle avait acheté cher tous les agréments dont elle avait joui par ses soins, qu'ils avaient été suivis de cruelles peines par l'état où elle l'avait trouvé. La bête la remercia laconiquement, après quoi, voulant prendre congé d'elle, elle lui demanda à son ordinaire si elle voulait qu'elle couchât avec elle. La belle fut quelque temps sans répondre, mais prenant enfin son parti, elle lui dit en tremblant « Oui, la bête, je le veux bien, pourvu que vous me donniez votre foi et que vous receviez la mienne. »
« Je vous la donne, reprit la bête, et vous promets de n'avoir jamais d'autre épouse. »
« Et moi, répliqua la belle, je vous reçois pour mon époux et vous jure un amour tendre et fidèle. »
À peine eut-elle prononcé ces mots, qu'une décharge d'artillerie se fit entendre, et pour qu'elle ne doutât pas que ce ne fût en signe de réjouissance, elle vit de ses fenêtres l'air tout en feu par l'illumination de plus de 20 000 fusées qui se renouvelèrent pendant 3 heures. Elle formait des lacs d'amour, des cartouches galants représentaient les chiffres de la belle et on lisait en lettres bien marquées « Vive la belle et son époux !» Ce charmant spectacle ayant suffisamment duré, la bête témoigna à sa nouvelle épouse qu'il était temps de se mettre au lit. Quelque peu d'impatience qu'eut la belle de se trouver auprès de cet époux singulier, elle se coucha. Les lumières s'éteignirent à l'instant. La bête s'approchant, fit appréhender à la belle que du poids de son corps, elle n'écrasa leur couche. Mais elle fut agréablement étonnée en sentant que ce monstre se mettait à ses côtés aussi légèrement qu'elle venait de le faire. Sa surprise fut bien plus grande quand elle l'entendit ronfler presque aussitôt et que par sa tranquillité, elle eut une preuve certaine qu'il dormait d'un profond sommeil. Malgré son étonnement, accoutumée qu'elle était aux choses extraordinaires, après avoir donné quelques moments à la réflexion, elle s'endormit aussi tranquillement que son époux, ne doutant point que ce sommeil ne fût mystérieux, ainsi que tout ce qui se passait dans ce palais. À peine fut-elle endormie, que son cher inconnu vint à l'ordinaire lui rendre visite. Il était plus gai et plus paré qu'il n'avait jamais été. « Que je vous suis obligée, charmante belle !» lui disait-il. Vous me délivrez de l'affreuse prison où je gémissais depuis si longtemps. Votre mariage avec la bête va rendre un roi à ses sujets, un fils à sa mère et la vie à son royaume. Nous allons tous être heureux. » La belle, à ce discours, sentait un violent dépit, voyant que l'inconnu, loin de lui témoigner le désespoir où le devait jeter l'engagement qu'elle venait de prendre, faisait briller à ses yeux une joie excessive. Elle allait lui témoigner son mécontentement, lorsque la dame à son tour lui parut en songe. « Te voilà victorieuse, lui dit-elle. Nous te devons tout, la belle. Tu viens de préférer la reconnaissance à tout autre sentiment. Il n'y en a point qui, comme toi, eussent eu la force de tenir parole aux dépens de leur satisfaction, ni d'exposer leur vie pour sauver celle de leur père. En récompense, il n'y en a point qui puissent espérer jamais jouir d'un bonheur pareil à celui où ta vertu t'a fait parvenir. » Tu n'en connais à présent que la moindre partie. Le retour du soleil t'en apprendra davantage. » Après la dame, la belle revoyait le jeune homme, mais étendu et comme mort. Toute la nuit se passa à faire différents songes. Ses agitations lui étaient devenues familières, elles ne l'empêchèrent point de dormir longtemps. Ce fut le grand jour qui la réveilla. Il brillait dans sa chambre bien plus qu'à l'ordinaire. Ses guenons n'avaient pas fermé les fenêtres. C'est ce qui lui donna l'occasion de jeter les yeux sur la bête.
prenant d'abord le spectacle qu'elle voyait pour une suite ordinaire de ses songes, et croyant rêver encore, sa joie et sa surprise furent extrêmes quand elle n'eut plus lieu de douter que ce qu'elle voyait ne fût réel. Le soir, en se couchant, elle s'était mise au bord de son lit, ne croyant pas faire trop de place à son affreux époux. Il avait ronflé d'abord, mais elle avait cessé de l'entendre avant que de s'endormir. Le silence qu'il gardait quand elle s'éveilla, lui ayant fait douter qu'il fût auprès d'elle, et s'imaginant qu'il s'était levé doucement, pour en savoir la vérité, elle se retourna avec le plus de précaution qu'il lui fut possible, et fut agréablement surprise de trouver au lieu de la bête son cher inconnu. Ce charmant dormeur lui paraissait mille fois plus beau qu'il ne l'était pendant la nuit. Pour être certaine si c'était bien le même, elle se leva et fut prendre sur sa toilette le portrait qu'elle portait d'ordinaire au bras. Mais elle ne le put méconnaître. Occupée du merveilleux de cet assoupissement, elle lui parla dans l'espérance de le faire cesser. Ne s'éveillant point à sa voix, elle le tira par le bras. Cette seconde tentative lui fut encore inutile et ne servit qu'à lui faire connaître qu'il y avait de l'enchantement, ce qui la fit résoudre à laisser passer ce charme qui, vraisemblablement, devait avoir un terme prescrit. Comme elle était seule, elle ne craignait de scandaliser personne par les libertés qu'elle pouvait prendre avec lui. De plus, il était son époux. C'est pourquoi, donnant un libre cours à ses tendres sentiments, elle le baisa mille fois et prit ensuite le parti d'attendre patiemment la fin de cette espèce de léthargie. Qu'elle était charmée d'être unie à l'objet qui seul l'avait forcée à balancer et d'avoir fait par devoir ce qu'elle aurait voulu faire par goût. Elle ne doutait plus du bonheur qu'on lui avait promis dans ses songes. Ce fut alors qu'elle connut que la dame lui disait vrai en lui représentant qu'il ne serait point incompatible d'avoir tout à la fois de l'amour pour la bête et pour son inconnu, puisque les deux n'étaient qu'un. Cependant, son époux ne s'éveillait pas. Après un peu de nourriture, elle essaya de se dissiper par ses occupations ordinaires, mais elles lui parurent insipides. Ne pouvant se résoudre à sortir de sa chambre, pour n'y pas rester oisive, elle prit de la musique et se mit à chanter. Ses oiseaux, l'entendant, firent avec elle un concert d'autant plus charmant que la belle espérait toujours qu'il serait interrompu par le réveil de son époux, car elle s'était flattée de détruire l'enchantement par l'harmonie de la voix. Il le fut, en effet, mais non de la façon qu'elle avait espérée. La belle entendit le bruit étranger d'un char qui roulait sous les fenêtres de son appartement et la voix de plusieurs personnes qui s'approchaient de sa chambre. Au même instant, le singe capitaine des gardes, par le bec de son perroquet truchement, lui annonça des dames. La belle, regardant par la fenêtre, vit le char qui les avait apportées. Il était d'une façon toute nouvelle et d'une beauté sans égale. Quatre cerfs blancs ayant leurs bois et les pinces d'or, superbement harnachés, tiraient cet équipage dont la singularité augmenta le désir qu'elle avait de connaître celles à qui il appartenait. Par le bruit qui devenait plus grand, elle connut que ces dames approchaient et qu'elles devaient être prêtes de l'antichambre. Elle se crut obligée d'aller au-devant. Elle reconnut dans une des deux la dame qu'elle avait coutume de voir en songe. L'autre n'était pas moins belle. Sa mine haute et distinguée marquait assez qu'elle était une personne illustre. Cette inconnue avait passé sa première jeunesse, mais elle avait l'air si majestueux que la belle ne savait à laquelle adresser son compliment. Elle était dans cet embarras lorsque celle qu'elle connaissait déjà et qui paraissait avoir quelque supériorité sur l'autre, adressant la parole à sa compagne, lui dit « Eh bien, reine, que pensez-vous de cette belle fille? Vous lui devez le retour de votre fils à la vie, car vous conviendrez que la façon déplorable dont il en jouissait ne peut pas s'appeler vivre. Sans elle, vous n'auriez jamais revu ce prince, et il serait resté sous l'horrible figure dans laquelle il avait été transformé s'il ne se fût pas trouvé dans le monde une personne unique de qui la vertu et le courage égalent la beauté. Je crois que vous verrez avec plaisir ce fils qu'elle vous rend devenir son bien. Ils s'aiment, et il ne manque à présent à leur parfait bonheur que votre consentement. Le leur refuserez-vous ? » La reine, à ces mots, embrassant tendrement la belle, s'écria « Loin de leur refuser mon consentement, j'y mets ma souveraine félicité. Charmante et vertueuse fille, à qui j'ai tant d'obligations, apprenez-moi qui vous êtes, et le nom des souverains assez heureux pour avoir donné le jour à une princesse si parfaite. »
Madame, répondit modestement la belle, depuis longtemps je n'ai plus de mère. Mon père est un marchand plus connu dans le monde par sa bonne foi et ses malheurs que par sa naissance. »
À cette sincère déclaration, la reine, étonnée, recula deux pas et dit
« Quoi ? Vous n'êtes que la fille d'un marchand ?
Ah, grande fée ! » ajouta-t-elle en la regardant d'un air mortifié.
Elle se tut après ce peu de paroles, mais son air disait assez ce qu'elle pensait, et son mécontentement s'exprimait dans ses yeux.
« Il me semble, lui dit fièrement la fée, que vous n'êtes pas contente de mon choix. La condition de cette jeune fille excite vos mépris. Elle était cependant la seule dans le monde qui fut capable de remplir mon projet et de rendre votre fils heureux. »
« Je suis très reconnaissante, répondit la reine. Mais puissante intelligence, ajouta-t-elle, je ne puis m'empêcher de vous représenter le bizarre assemblage du plus beau sang du monde dont mon fils est issu, avec le sang obscur d'où sort la personne à qui vous le voulez unir. Je vous avoue que je suis peu flattée du prétendu bonheur de ce prince, s'il le faut acheter par une alliance aussi honteuse pour nous et aussi indigne de lui. Serait-il impossible qu'il se trouvât dans le monde une personne de qui la vertu égala la naissance ? Je sais le nom de tant de princesses estimables. Pourquoi ne me sera-t-il pas permis de me flatter de le voir possesseur d'une d'elles ?
Comme elles en étaient en cet endroit, le bel inconnu parut. L'arrivée de sa mère et de la fée l'avait éveillée, et le bruit qu'elles avaient causé eut plus de pouvoir que tous les efforts de la belle, l'ordre du charme le voulant ainsi. La reine le tint longtemps embrassé sans proférer une parole. Elle retrouvait un fils que ses belles qualités rendaient digne de sa tendresse. Quelle joie pour ce prince de se voir délivré d'une figure épouvantable et d'une stupidité d'autant plus douloureuse qu'elle était affectée et qu'elle n'avait point obscurci sa raison. Il recouvrait la liberté de paraître en sa forme ordinaire par l'objet de son amour, c'est ce qui la lui rendait encore plus précieuse. Après les premiers transports que le sang lui venait d'inspirer pour sa mère, le prince les interrompit pour suivre le devoir et la reconnaissance qui le pressait de rendre grâce à la fée. Il le fit dans les termes les plus respectueux et les plus courts, afin d'avoir la liberté de tourner ses empressements du côté de la belle. Il les lui avait déjà fait connaître par ses tendres regards, et pour confirmer ce qu'avaient dit ses yeux, il allait y joindre les termes les plus touchants, lorsque la fée le retint et lui marqua qu'elle le prenait pour juge entre sa mère et elle.
« Votre mère, lui dit-elle, condamne l'engagement que vous avez pris avec la belle. Elle trouve que sa naissance est indigne de la vôtre. Pour moi, je crois que ses vertus en font disparaître l'inégalité. C'est à vous, prince, à décider qui de nous deux pense selon votre goût. Afin que vous ayez une entière liberté de nous faire connaître vos véritables sentiments, je vous déclare qu'il vous est permis de ne vous pas contraindre. Quoique vous ayez donné votre foi à cette aimable personne, vous la pouvez reprendre. Je suis caution que la belle vous la rendra sans aucune difficulté. Quoique, par sa bonté, vous ayez repris votre forme naturelle, je vous assure encore que sa générosité lui fera pousser le désintéressement jusqu'à vous laisser la liberté de disposer de votre main en faveur de la personne à qui la reine vous conseillera de la donner.
« Qu'en dites-vous, la belle ? » poursuivit la fée en se tournant de son côté. « Me suis-je trompée en expliquant vos sentiments ? Voudriez-vous d'un époux qui le serait à regret ?»«
Non, assurément, madame, répondit la belle. Le prince est libre. Je renonce à l'honneur d'être son épouse. Quand j'ai accepté sa foi, j'ai cru faire grâce à quelque chose au-dessous de l'homme. Je ne me suis engagée avec lui que dans le dessein de lui faire une faveur insigne. L'ambition n'a point eu de part à mes intentions. Ainsi, grande fée, je vous supplie de ne rien exiger de la reine dans une occasion où je ne puis blâmer sa délicatesse.
« Eh bien, reine, que dites-vous à cela ? » dit la fée d'un ton dédaigneux et piqué. « Trouvez-vous que les princesses qui ne le sont que par le caprice de la fortune méritent mieux le haut rang où le sort les a placées que cette jeune personne ? Pour moi, je pense qu'elle ne devrait pas être responsable d'une origine que sa vertu relève suffisamment. »
La reine répondit avec une espèce de confusion. « La belle est incomparable. Son mérite est infini. Rien n'est au-dessus. Mais, madame, ne pouvons-nous pas trouver d'autres moyens de le récompenser ? Ne le puis-je pas faire sans lui sacrifier la main de mon fils ?»« Oui, la belle, lui dit la reine, je vous dois tant que je ne le puis reconnaître. Je ne mets point de bornes à vos désirs. Souhaitez hardiment, je vous accorderai tout, hors ce seul point. Mais la différence ne sera pas grande pour vous. Choisissez un époux dans ma cour. Quelque grand seigneur qu'il puisse être, il aura lieu de s'estimer heureux, et à votre considération, je le placerai si près du trône qu'il y aura peu de différence. » « Je vous rends grâce, madame, lui répondit la belle. Je n'ai point de récompense à exiger de vous. Je suis trop payée du plaisir d'avoir fait cesser l'enchantement qui dérobait un grand prince à sa mère et à son royaume. Mon bonheur serait parfait si c'était à mon souverain que j'eusse rendu ce service. Tout ce que je désire est que la fée daigne me remettre auprès de mon père. » Fin de la 8e partie, lue par Ezoy en Belgique, en mars 2010.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.